France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Les paléontologues, les paléoanthropologues et tous ceux qui travaillent sur une matière qui a des millions d'années savent que nous ne verrons plus certains trésors, que nous ne les verrons plus jamais. La grotte de Lascaux, la grotte Chauvet, rares sont ceux qui ont pu en goûter l'original, mais les grottes d'origine sont encore là. Elles ont été refaites à l'identique pour que nous puissions tous en profiter. La grotte Cosquer, un jour, sera inexorablement engloutie par la montée des eaux. Elle est déjà loin dans les calanques, mais certaines salles ne sont que semi-immergées. Pour combien de temps? Elle aussi est en train d'être reconstruite à l'identique. Mais peut-être, en tout cas pour moi et pour vous peut-être aussi, a-t-elle cette attraction particulière? Parce qu'elle nous parle d'un temps où la mer était bien loin après les terres. Parce qu'elle nous parle donc de montée des eaux, parce qu'elle nous parle de changement climatique et parce qu'elle nous en parle encore. La grotte Cosquer a sur ses murs des dauphins, des pingouins, qui nous ramènent à, il y a 27 000 ans, une Marseille glaciale, qu'on ne veut d'ailleurs pas tout à fait appeler Marseille. Mais pas seulement, elle a des symboles aussi, cette grotte un peu plus abstraite, qui nous parle d'art. Et c'est tellement fascinant et joli d'imaginer que l'art a précédé tant de choses. Quel secret dans cette grotte engloutie? Quel secret peut-elle encore nous livrer avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que les murs des grottes savent nous parler et nous aident à mieux comprendre les premiers hommes aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait un jour en découvrir d'autres? La discussion s'annonce passionnante. Grâce à vos appels, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jean-Yves est à Grenoble et c'est le premier. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
On vous écoute Jean-Yves.
Oui, je voulais dire que la Terre, elle a toujours bougé, elle a toujours évolué. C'est un continent, ce n'est pas figé, la Terre. Les écolos, je trouve qu'ils sont très alarmistes. Ils disent toujours que l'homme est responsable de tout. Mais il y a quelques millions d'années, il y avait un seul continent, il y avait la Pangée. Puis après, la Terre s'est séparée en plusieurs morceaux et tout. Mais c'est pas l'homme qui est responsable de ça. Alors maintenant, on nous dit, oui, on va perdre des grottes et tout. Bien sûr, mais c'est l'évolution normale de la Terre, je pense. Alors je voudrais savoir maintenant, dans cette évolution, quelle est la part de responsabilité de l'homme dans un phénomène naturel?
Eh bien, on va poser la question à certains de nos invités. Il y en a un qui est tout indiqué pour ça. Juste avant, un petit tour de table. Je salue tout le monde loin de moi à Marseille et j'en profite pour remercier d'ailleurs le musée Regard de Provence qui vous accueille tous autour de la même table. Geneviève Pinson est avec nous, vous êtes directrice du Centre National de Préhistoire de Périgueux. Jean-Jacques Hublin, vous êtes paléoanthropologue, directeur du département Évolution de l'Homme de l'Institut. Max Planck, c'est à Leipzig en Allemagne. Édouard Barre, vous êtes climatologue, professeur titulaire de la chaire Évolution du Climat et de l'Océan au Collège de France. Et Sophie Bacherel, spécialiste des sciences et des grottes à France Inter, est avec nous également. Mais du coup, c'est pour vous cette question, Édouard Barre, cette question de Jean-Yves. Alors bien sûr qu'il y a l'évolution naturelle de milliers d'années autour de cette grotte, évidemment, et d'autres choses d'ailleurs. Mais en quoi, aujourd'hui, on risque de la perdre à cause du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une vraie relation de cause à effet?
Alors oui, justement, et le fait de regarder la grotte Cosquer est tout à fait intéressant parce qu'on peut avoir superposition à la fois d'effets naturels qui vont intervenir sur des laps de temps relativement longs. Par exemple, l'ennoiement de la grotte Cosquer a eu lieu sur des millénaires, et là c'est un phénomène qui est géologique, c'est-à-dire c'était effectivement le phénomène de glaciation avec un niveau marin qui était il y a 20 000 ans, qui était 130 mètres plus bas que le niveau actuel. Mais par contre, à l'heure actuelle, il y a effectivement une inquiétude qui est que le niveau de la mer augmente à l'heure actuelle de l'ordre de 3 mm par an. Alors ça peut paraître peu, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. On l'a vu aujourd'hui lors du colloque organisé à Marseille. Et il est très clair qu'à la fin du siècle, on va gagner pratiquement 1 mètre. Et ce 1 mètre supplémentaire dans la grotte Cosquer va probablement effacer une très grande partie des peintures, des représentations, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc il faut pas confondre en fait les deux choses. Il faut être à la fois inquiet pour le futur à cause de ce réchauffement mondial qui a des implications et des conséquences comme l'élévation du niveau marin, mais effectivement sur des échelles de temps beaucoup plus longs, il y a des phénomènes naturels qui ont toujours existé, et justement les scientifiques sont là pour faire la part des choses en faisant de la paléoclimatologie pour reconstituer les des variations à long terme, et en même temps s'inquiéter du futur avec des accélérations qui sont tout à fait conséquentes.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Geneviève Pinson, justement précisément là-dessus, qu'est-ce qu'on voyait encore en 1987 ou 91 plutôt, quand la grotte a été, j'allais dire mise à jour, a été découverte, ou qu'est-ce qu'on ne voit plus déjà ? Est-ce qu'il y a déjà une différence entre 1991 et maintenant ?
Certainement qu'il y a une différence, puisque Kosker découvre en 85 et déclare en 91 la découverte de cette grotte, il va trouver une grotte qui est déjà bien sûr abîmée, puisque la mer est déjà a déjà envahi les salles, mais en même temps, depuis, il y a eu plusieurs phénomènes, et les phénomènes sont variés. Il y a bien sûr la mer qui continue de monter doucement mais sûrement. On le voit en constatant des lignes qui marquent bien une usure de la paroi sur les figures qui, du coup, petit à petit disparaissent en partie, notamment sur le panneau des chevaux qui est célèbre. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes sismiques qui font que les colonnes se sont fracturées, ou alors d'autres éléments de pollution naturelle. Marseille est juste à côté. Les traitements des eaux n'ont pas toujours été... C'est le temps qui... Il y a des phénomènes, comme disait mon collègue, les phénomènes naturels et les phénomènes anthropiques dus à l'homme. Et ça, c'est certainement... La grotte Kosker évolue, elle change de visage, et il est urgent, vraiment très urgent, de l'étudier, de la partager, de l'enregistrer. Donc c'est ce que le ministère de la Culture a fait en faisant les relevés 3D pour en avoir un clone, une image, un instant T où voilà, on aura au moins ce patrimoine qui sera préservé sur le temps long. Et puis je pense que la grotte Kosker, il faut qu'elle nous livre ses secrets. Vous savez, d'habitude on a le temps d'étudier une grotte. La grotte Chauvet, ça fait 20 ans qu'on l'étudie. Il y a une très belle publication qui est sortie, l'Atlas de Chauvet. Ces 20 ans de recherche pluridisciplinaire, on commence à savoir naviguer dans la grotte, circuler comme l'homme préhistorique circulait. On l'appréhende, cette grotte. On commence à l'appréhender grâce à la recherche des collègues de toute discipline.
Mais c'est pas encore le cas à Kosker, elle a encore des secrets.
Mais à Kosker, on ne la connaît pas, et il faut se presser de la connaître.
Et justement, qu'on sait, Geneviève Pinson, à quel moment on va la perdre, en fait ? À quel moment ça deviendra plus possible ? Est-ce qu'on a une idée dans le temps, du temps qui nous reste, en fait, pour essayer d'en découvrir chacun des secrets ?
Pour moi, ça va être difficile de l'évaluer, puisque je ne peux pas savoir à quel rythme les changements vont se faire. Ce qui est sûr, c'est que plus on en prendra connaissance, mieux on l'appréciera, et mieux chacun de nous, public d'aujourd'hui, tous les contemporains d'aujourd'hui, on en profitera, parce qu'en fait, c'est sinon on va avoir vraiment beaucoup de plus en plus de lacunes. Le moindre indice nous parle, va nous orienter sur des interprétations, etc. Mais là, il est très clair qu'il faut vraiment enregistrer, enregistrer la connaissance, l'objectif, le fait archéologique, pour vraiment en tirer quelque chose qui va nous parler, ou au moins des pistes de réflexion. Après, on va débattre, après on va pouvoir interpréter les uns les autres, mais ça sera la vie autour de cet objet préhistorique.
Jean-Jacques Hublin, je ne dirais pas que vous êtes un homme qui a l'habitude, tellement l'habitude, mais je suis assez curieuse de savoir quel genre de pincement au cœur, effectivement, ça fait quand on est un paléoanthropologue comme vous, de se dire que on va le perdre. Ça veut dire que on perdra des connaissances, on perdra tellement de choses aussi sur ce qu'était la forme d'art qu'il y avait dans ces grottes-là, parce que on parlait du tableau des chevaux tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de grottes. Je pense à celle de Chauvet, par exemple, avec un tableau de chevaux qui est absolument somptueux, magnifique. Mais à Kosker, il y a des choses très particulières aussi qu'il faut aller chercher, très spécifiques à Kosker.
Oui, la grotte Kosker est particulière à cause aussi de sa localisation. C'est vrai qu'on y trouve des animaux représentés qui sont rares, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'art paléolithique, des pingouins, par exemple, des choses comme ça.
C'est génial d'imaginer des pingouins dans l'art paléolithique, quand même, honnêtement. Des dauphins, paraît-il.
Oui, enfin, c'est surtout des pingouins à Marseille qui est assez émouvant à imaginer. Alors, j'accroche un petit peu sur le mot art, parce que je crois qu'il faut bien se mettre en tête que ces grottes, c'est pas juste une expression artistique. C'est l'expression de de croyances, de récits des origines, de tout un corpus mythologique, malheureusement qui nous est perdu, mais qui était très important pour ces hommes, qui assurait la cohésion de ces sociétés anciennes. Alors, évidemment, comme tout le monde, j'ai une grande émotion quand je suis au contact de cet art très ancien, dont en fait il nous reste que quelques exemples, souvent préservés dans des sites qui ont été complètement fermés, Chauvet, Lascaux, toutes ces grottes un peu exceptionnelles, elles sont parvenues jusqu'à nous, justement parce qu'elles étaient closes. Et il faut voir, si je peux dire, le côté positif des choses en ce qui concerne Kosker, c'est que dans le fond, Kosker est parvenu jusqu'à nous aussi parce que c'est une grotte qui a été engloutie, si je peux dire, par la Méditerranée. Et c'est ce qui a assuré, dans le fond, sa survie, en tout cas de ce qu'il en reste. Cette salle, elle a été un monde clos pendant peut-être 10 000 ans, 11 000 ans, intacte, elle est parvenue jusqu'à nous. Donc voilà, moi je vois le verre à moitié plein.
Oui, vous avez bien raison. Avant qu'on retourne au standard, est-ce que Sophie Bécherel, vous pouvez nous ramener juste brièvement sur cette découverte à un moment? Comment ça se passe quand un plongeur suit un boyau et se retrouve face à une salle incroyable qui n'est pas complètement immergé?
Ah ben, l'histoire d'Henri Kosker, il me l'a raconté à nouveau cet après-midi, donc 1985. C'est un scaphandrier professionnel, professeur de plongée. Donc, à ses heures libres, voilà, il va beaucoup dans les calanques. Il est assez, il est pas très bavard sur la raison pour laquelle il est allé dans ce boyau. Mais quoi qu'il en soit, il y est allé parce que l'eau était très claire et parce qu'il a l'habitude de ce milieu-là. Il y va plusieurs fois et à un moment donné, il voit une main, et c'est ça qui va l'inciter à aller un peu plus loin.
Une main dessinée, rassurez-moi.
Voilà, une main dessinée sur une paroi. Et voilà, il va y revenir énormément de fois. Jusqu'à 1991, effectivement, la date à laquelle il déclare la découverte de la grotte aux affaires maritimes, quelques temps auparavant, des plongeurs indélicats, ou peut-être sans autorisation, ou peut-être inexpérimentés, s'y sont aventurés, et deux d'entre eux sont morts. Donc à ce moment-là, il se dit, il faut peut-être faire quelque chose.
Et c'est là que cette grotte est là,
c'est là qu'on découvre, voilà, qu'elle est déclarée et que Jack Lang accepte de lui attribuer le nom de grotte Kosker.
Voilà, c'est vrai que les grottes en général, Chauvet c'était pareil, portent le nom de ceux qui l'ont découvert. Aude est avec nous. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
On vous écoute Aude.
Alors moi je voulais parler des émotions que peuvent provoquer ces peintures pour avoir visité des reconstitutions notamment à Chauvet. Je trouve assez incroyable de se retrouver face à des dessins, des peintures qui ont été réalisées il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, tout en se disant que c'est à la fois le fondement de l'humanité et en même temps des civilisations qu'on connaît très mal parce que les hommes préhistoriques, on a souvent une vision de l'homme des cavernes assez basique et finalement ces civilisations, ces croyances qu'on ne connaît pas, je trouve ça incroyable et les émotions provoquées sont aussi incroyables.
Merci beaucoup Aude, à la raison Aude sur ces émotions provoquées. Moi je connais au moins une personne qui a vu la vraie grotte Chauvet. Il paraît qu'à un moment devant les chevaux par exemple on pleure en fait, tellement c'est beau. Est-ce que c'est une émotion que vous avez déjà ressentie Jean-Jacques Hublin? Est-ce qu'on est finalement jamais blasé devant ce qu'on découvre dans des endroits pareils?
Non, je crois pas qu'on est blasé parce que justement on ressent, en tout cas moi je le ressens, la dimension sacrée en fait de ces lieux. Les hommes sont allés dans les tréfonds de la terre pour représenter quelque chose qui est leur vision du monde, leur histoire de leurs origines.
Mais vous dites vous dites sacré, Jean-Jacques Hublin, mais dans notre acception à nous, dans sacré, il y a quelque chose de religieux. Ça, on ne sait pas trop, en fait, s'il y avait cet aspect-là, ou si, pardon de le dire de manière aussi radicale, ou s'ils racontaient leur journée, tout simplement, en fait, ce qui a aussi un sens énorme, mais où ils racontaient simplement leur journée.
Non, c'est assez improbable qu'ils sont allés raconter leur journée à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans des endroits souvent qui sont inaccessibles, sur des panneaux qui parfois, une fois qu'ils ont été décorés était pratiquement invisible en fait. Mm-hmm. Donc c'était vraiment une performance, c'est-à-dire mm-hmm. c'était le fait même de représenter mm-hmm. ces animaux qui avaient un sens pour eux. Et d'ailleurs, ça n'était pas n'importe quels animaux, ça n'était pas n'importe quels êtres. Ce qui est justement frappant dans l'art paléolithique, ce qui le rend tout à fait étrange et fascinant, c'est cette dimension du quotidien qui manque. Mm-hmm. C'est-à-dire, il n'y a pas de scène de la vie du quotidien, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas, d'ailleurs, les êtres humains.
Il n'y a pas d'objet, en fait.
Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de plantes. Les êtres humains sont très rares. Quand ils sont représentés, ils sont souvent représentés sous des formes un petit peu déformées, étranges, avec des têtes d'animaux, des choses comme ça. Donc, des gens qui sont capables de représenter de façon très très réaliste un cheval, dans le fond, il y a quelque chose qui fait que quand il s'agit de l'être humain, eh bien, ils représentent. Ils peuvent représenter un sexe féminin, ils peuvent représenter un être un peu déformé. Donc voilà, il y a tout un corpus de croyances qui est un corpus de croyances qui est probablement partagé par tout un ensemble de populations. Et c'est cet ensemble de croyances qui, comme dans les sociétés modernes, dans le fond, assure la cohésion de ces sociétés. Ces croyances dans des choses qui n'existe peut-être pas ou qui pourrait exister, c'est ce récit un peu légendaire qui fait qu'on se sent appartenir à un peuple. Et donc, je pense que on ressent tout ça quand on est face à cette expression esthétique.
Avant de retourner au standard, Edouard Barre, puisqu'on parlait effectivement de ce côté à la fois magique et incongru de voir des pingouins, ramenez-nous à Marseille il y a 27 000 ans. À quoi ça ressemblait en fait? Quel temps il fait à ce moment-là? À quoi ça ressemble?
Ah ben les températures étaient effectivement beaucoup plus froides. On en a beaucoup de preuves. Alors les pingouins effectivement sont emblématiques, montrent effectivement. Ce sont des pingouins qui n'existent plus, qui ont été, qui étaient rencontrés encore il y a quelques siècles, qui étaient encore en Atlantique Nord, mais qui n'existent plus. Il y a quelques exemplaires empaillés dans les musées, mais c'est clairement un oiseau qui vivait beaucoup plus haute. Donc il est très clair que le climat était beaucoup plus dur à l'époque, le niveau marin était effectivement 120 mètres plus bas, les paysages étaient totalement différents, on était plus au nord, il y avait des
mais c'est quoi, c'est une espèce de steppe ou
avec des animaux qui sont représentés, certains des animaux qui sont représentés, mammouths, chevaux, bisons, aurochs et autres, donc tous ces donc une faune qui était très différente et aussi une végétation, c'est quelque chose effectivement que l'on peut regarder finement en faisant des carottages, par exemple des études sur des sédiments dans des lacs, on peut retrouver justement la trace de ces variations climatiques. Alors on peut travailler aussi sur d'autres indicateurs beaucoup plus pointus, physico-chimiques, c'est ce que l'on fait dans notre laboratoire à Aix-en-Provence. On a des outils à la fois, on travaille sur certaines molécules ou certains isotopes qui nous permettent de reconstituer des paléotempératures. Donc on a des paléotempératures qui étaient de 5 à 10 degrés plus froides dans cette zone pendant la glaciation. C'est très clair. Donc, on a effectivement, avec toutes ces données obtenues par les scientifiques, à la fois dans des sédiments lacustres, on peut travailler aussi sur les stalagmites, sur les stalactites. Il y a beaucoup d'informations croisées aussi avec les datations qui nous permettent effectivement d'avoir une échelle temporelle. On peut reconstituer de façon quantifiée les variations climatiques de l'époque et de précipitations.
J'ai cru comprendre qu'il y avait des dauphins, par exemple, dessinés. Est-ce que je me trompe? Et je suis même étonnée qu'il y en ait.
Non, des phoques.
Ah, des phoques. Non, mais voilà, c'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qu'il viendrait faire là, alors qu'il fait si froid? Quelle est cette bizarrerie? C'est pas pareil, un dauphin et un phoque, Geneviève Pinson. Voilà, je vous remercie de...
Il y a des phoques en Méditerranée.
C'était là que j'étais perdue. Je vais revenir à vous, Geneviève Pinson, dans un instant. Je voudrais que Hubert nous rejoigne sur France Inter. Bonsoir, Hubert.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je voulais simplement demander à vos invités, ceux qui ont eu la chance de pénétrer dans la grotte Coster, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils respiraient de l'air de 30 000 ans? Est-ce que ça leur a amené des réflexions particulières, philosophiques, je ne sais quoi? Mais est-ce qu'ils ont eu conscience de cela? Et Est-ce que, voilà, quelle a été leur émotion?
Merci beaucoup. Merci. Hubert, il y a une question subsidiaire d'Héloïse qui est à Rennes et qui dit, y a-t-il des scientifiques qui travaillent encore dans la vraie grotte Kosker, malgré son accès difficile? Je vous pose la question conjointement. C'est vous, Sophie Bécherel, qui allez pouvoir m'aiguiller au milieu de nos invités.
Je ne sais pas s'il y a un invité parmi nous qui est plongeur. Voilà. Parce qu'évidemment, il faut être plongeur. Geneviève, non. Son nom.
Nous sommes deux à être plongeurs, mais ni l'un ni l'autre n'est allé dans la grotte Kosker. Ce que je peux dire à propos de l'ère paléolithique, c'est qu'on sait quand même que l'ère de la grotte est renouvelée régulièrement. Donc il y a peu de chances qu'on puisse respirer une molécule d'air paléolithique dans la grotte. Maintenant, évidemment, ça n'enlève rien à l'émotion qu'on peut ressentir dans ce genre d'endroit.
Sur la question, est-ce qu'on continue les études?
Oui, absolument.
Bien sûr. Il y a en cours un relevé, une campagne de relevé.
C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait. Lors du colloque, il y a eu en particulier un intervenant qui travaille de façon très active dans la grotte Kosker. Mm. Et il y a de la recherche, effectivement, qui est en train de se faire pour relever. Et donc, c'est important. Mais pour revenir à la plongée, aller à 37 mètres dans cette entrée de la grotte Kosker qui est maintenant inondée et qui est située à 37 mètres sous le niveau actuel de la Méditerranée, faire un boyau, un siphon qui fait plus de 140 mètres, c'est une performance pour un plongeur. Ah oui. Donc c'est pas n'importe quel plongeur qui peut.
Il faut pas y aller en snorkeling.
Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est réservé et en plus maintenant c'est interdit et effectivement c'est réservé aux chercheurs et aux gens qui sont compétents.
Geneviève Pinson voulait ajouter quelque chose.
Oui, en fait, oui, merci. Parce qu'en fait, l'étude de Kosker, il y a plusieurs types de recherches, en fait. Il y a la recherche pour sa conservation, c'est ce que vient d'expliquer notre collègue. Et puis, il y a la recherche pour comprendre la part archéologique du site et comprendre ces sociétés humaines qui sont intervenues dans ce site. Et ça, c'est une équipe qui se lance, qui est dirigée par Cyril Montoya et qui, là, va vraiment partir. Ils sont plusieurs plongeurs, évidemment. C'est une équipe pluridisciplinaire et là on repart pour une recherche de fond vraiment fondamentale avec les méthodes qu'on applique aujourd'hui pour comprendre la grotte dans son ensemble, à la fois ce qu'elle a laissé comme vestiges archéologiques sur les sols, sur les parois. Donc on va tout regarder et on va utiliser vraiment toutes les nouvelles méthodes de datation, d'analyse, tous les outils à disposition qui sont vraiment de plus en plus performants pour en sortir vraiment une connaissance la plus fine et arriver à vraiment à comprendre l'ensemble. Et un panneau, par exemple, le panneau des chevaux, il va devoir être relevé, c'est-à-dire, certes, actuellement, on fait le relevé en trois dimensions, donc ça, c'est le relevé numérique, mais c'est une machine, en quelque sorte, qui saisit la copie. Maintenant, le préhistorien, il a un esprit, il a une pensée, il doit réfléchir, il doit analyser, et c'est un relevé sur lequel il va devoir saisir tout ce qui s'est passé sur la paroi, ce qui relève du naturel, ce qui relève de la part humaine. Et de là, il va décrypter véritablement la part de l'homme, ce qu'il a vraiment inscrit et dans quel sens, dans quel rythme, dans quelle succession. Et c'est comme ça qu'on va arriver à saisir s'il y a eu plusieurs passages, il a changé ses pensées. À un moment donné, cette image-là ne correspondait plus à l'idée du groupe. Le mythe a évolué, il faut changer cette image. Donc j'efface, je reprends. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on arrive. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous être sensible à nous, les contemporains.
C'est vraiment passionnant d'imaginer ça, d'imaginer un retour, surtout. Sophie Bécherel, des noms, c'est vous qui m'avez dit qu'il y avait eu deux passages, un à moins 27 000 et un à moins 19 000.
Ah ben oui, mais ça fait partie des choses à comprendre. Pourquoi les homo sapiens sont venus à deux reprises, mais ont abandonné pendant toute cette longue période la grotte. Est-ce que c'était par exemple une raison météorologique? Est-ce que c'était, Édouard Barre, une hypothèse?
Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, comme ça j'échafaude une hypothèse et vous me direz que ça n'a aucun sens, est-ce qu'on peut imaginer est-ce que dans ces cas-là, on retrouve la grotte par hasard et on redessine effectivement là où d'autres l'avaient fait avant, ou est-ce qu'on peut imaginer que elle était non pas fléchée, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il savait ce qu'il cherchait en fait, même à autant d'années d'intervalle? Ça fait blanc derrière.
Il faut aussi faire un inventaire et refaire des datations. C'est-à-dire qu'il y a, bon, encore une fois, les deux périodes sont là, mais en même temps, il y a un continuum et finalement, les dernières compilations des données de carbone 14, hein, parce qu'en fait, il est possible de prélever ces peintures, de prélever des microcharbons et de les dater au carbone 14, montrent en fait un spectre qui est beaucoup plus large qu'au départ. Donc en fait, il faut regarder les dernières compilations et à la limite en refaire, peut-être avec des techniques encore améliorées, trouver d'autres, dater les charbons aussi au sol, dans les foyers, donc s'intéresser à beaucoup plus d'objets pour effectivement avoir une meilleure idée de la chronologie véritable de cette grotte Cosquer. Et puis en plus, il y a d'autres complications, il faut refaire tous ces calculs de datation en prenant les dernières évaluations de la calibration du carbone 14. Donc on a beaucoup de travail encore sur la planche pour mieux dater cette grotte Cosquer et vraiment voir si ces deux périodes sont aussi distinctes qu'on pensait
au départ. Patrick, bonsoir.
Bonsoir et merci de prendre ma question. Enfin, qui est plutôt une suggestion concernant la réplique à venir. Car à titre personnel, j'attends beaucoup de cette réplique. Et alors, j'ai visité cet été la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche. Et cette visite m'a un peu déçu et je ne suis pas le seul, parce que d'autres visiteurs consultés ont eu le même sentiment que le succès de la grotte Chauvet lui nuit. En ceci que la visite se déroule un peu au pas de charge. Les guides qui font excellemment leur travail, hein, qui sont très compétents et qui répondent à toutes les questions, ne cachent pas eux-mêmes leur frustration de devoir mener la visite à un train qui est défini par l'allumage et l'extinction des projecteurs qui éclairent chacun des motifs. Alors, moi, je n'impute ce fait à personne. Je pense que la grotte est victime de son succès. Il n'empêche que je pense que pour une réplique de la grotte Cosquer, il faudrait prévoir une organisation qui laisse un peu respirer, donc un peu méditer, donc un peu rêver, pour les raisons soulignées par l'auditrice précédente sur les émotions. Voilà, c'est simplement une suggestion pour cette réplique à venir.
Merci beaucoup, Patrick. Geneviève Pinson, c'est pour vous. Est-ce que vous nous laisserez dans cette réplique respirer, avancer doucement et à notre rythme?
Alors, je crois que c'est quand même ce que souhaite faire l'équipe Kléber-Roussillon, c'est bien sûr de fournir au public le meilleur. Ce que je constate avec tous les facsimilés, toutes les centres d'interprétation des grottes ornées où qu'elles se trouvent, c'est que de toute façon, aucune visite que l'on fait de ces lieux, même si on en fait plusieurs, ne se ressemble. Mais c'est comme dans la grotte originale. Moi, je peux aller plusieurs fois dans la même grotte, selon mon état personnel, selon ma disposition, selon ma fatigue, selon mes questions du moment, métaphysiques, etc. Je vais saisir et avoir une émotion très différente. Et c'est pour ça que je suis très très favorable, moi je travaille donc au ministère de la Culture et je suis vraiment très favorable, et il n'y a pas que moi au ministère, pour toutes ces répliques qui ont vraiment un intérêt, puisqu'on c'est le moment du partage de ces biens patrimoniaux que l'on sait qu'on ne peut pas voir, et même les chercheurs ont du mal à pouvoir y accéder dans certaines grottes. Et du coup, proposer une copie, après je pense qu'il faut que les visites soient modulables, soient... Alors évidemment, quand le site ouvre, le centre d'interprétation ouvre, il y a affluence, il faut satisfaire, donc il faut du rythme, il faut de la succession, mais j'ai bien vu qu'à Chauvet, il y avait quand même des moments où on avait demandé des visites où on respire, justement, où on s'arrête. C'est très important parce que l'émotion et ce qu'on va apprécier du site, mais dans le site original, c'est exactement la même chose. C'est vraiment le temps qu'on y passe. Et
peut-être que Patrick peut y revenir à une autre période de l'année que l'été.
Absolument.
Et pour lui répondre juste d'un point de vue pratique, à la grotte Cosquer, le dispositif qui a été choisi, puisque l'exploitation de ce facsimilé a été confiée à une entreprise privée qui est le même d'ailleurs que ce qui se passe à Chauvet, ce seront des nacelles ou des petits wagonnets, je ne sais pas comment vous dire, dans lesquels 6 personnes prendront place. des wagonnets sur pneumatiques qui avanceront extrêmement lentement, mais les visiteurs n'auront pas le choix de la vitesse et silencieusement. Ouais. Et ils déambuleront dans ce tunnel qui reconstitue 90% des peintures et des gravures de Kosker.
Sur l'eau.
Des bassins d'eau pour avoir cette sensation. Mais encore une fois, effectivement, le visiteur ne pourra pas s'arrêter 5 minutes face au panneau des chevaux ou à une empreinte de main.
Moi, je voudrais vraiment que les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu ce genre de grotte, quand ils entendent répliques, facsimilés, etc., imaginent jusqu'à quel point on y est vraiment. Enfin, moi aussi, j'ai visité la grotte Chauvet il n'y a pas si longtemps. S'il y avait un morceau d'os de un demi-millimètre dans l'original, on le retrouve aussi de l'autre côté. Et moi, le souvenir que j'en ai, et là-dessus, je pense que vous serez d'accord tous les trois, c'est aussi aussi que je comprends ce que dit Patrick sur le monde, et en même temps, quand on visite ce genre d'endroit, on se tait. Il y a quelque chose d'assez silencieux. Ça vient à l'esprit, à l'idée de personne, de commenter très fort ce qu'on a autour de soi. On a vraiment l'impression qu'effectivement, chacun le visite surtout pour soi, et le fait dans une sorte de recueillement, en fait, non ? Pas qui veut partir là-dessus ou pas, d'ailleurs, comme vous voulez.
Oui, Geneviève Pinson. Mais,
en tout cas, que ce soit le site reproduit ou le site original, parce que pour moi, c'est, l'approche est la même, c'est une expérience qu'on vient vivre. Et qu'on soit en famille ou qu'on soit avec des amis, on a constaté avec une étude qu'on a fait au niveau national des publics des grottes, c'est bien ça, c'est on vient faire une expérience dans un monde qui n'est pas le monde que l'on fréquente d'habitude. Et rien que ça, c'est qu'on recherche quelque chose de pas ordinaire. Ça, rien que cette démarche, elle est formidable. Et je pense que les centres y répondent bien, puisqu'on est dans un monde où, de toute façon, même si c'est une construction contemporaine, elle est tellement, elle joue son rôle, je crois.
Jean-Jacques Hublin, les grottes ornées, il n'y en a pas qu'en France, même si on a la chance d'en avoir des magnifiques. Et on semble trouver une certaine unité quand même dans le style. Est-ce qu'on peut dire ça, qu'il y a une unité dans le style? Et pourquoi, qu'on soit en Indonésie ou en Europe ou...
Alors, une unité dans le style, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte que de l'art rupestre, de l'art paléolithique dans les grottes, il y en a dans énormément d'endroits en Eurasie, quand on cherche vraiment. Encore une fois, il faut bien se mettre en tête que probablement la plus grande partie de cet art nous est perdue pour nous, parce qu'il ne s'est pas conservé, notamment tout ce qui pouvait être justement dans des lieux ouverts vers l'extérieur et qui n'étaient pas des lieux clos. Alors, une des découvertes de ces dernières années qui a beaucoup frappé les imaginations, ça a été la mise en évidence de figures animales, parfois humaines, dans des grottes situées vraiment à l'autre bout du monde, à une période qui est assez proche finalement de la période des grottes comme Chauvet, enfin les formes les plus anciennes d'art rupestre.
Donc, à Bornéo, 40 000 ans.
Voilà, même un petit peu plus. Donc, à Bornéo, dans les célèbres, à Sulawesi. Et c'est tout à fait frappant de voir qu'il y a des traits communs à toutes ces grottes ornées. Il y a des représentations animales. Les êtres humains, encore une fois, sont un petit peu monstrueux, ce qu'on appelle des thérianthropes, des êtres hybrides homme-animal. On trouve ça aussi bien dans l'art paléolithique d'Europe occidentale que là-bas, à l'autre bout du monde, et à peu près au même moment. Et donc, ce que ça suggère, c'est que cette vague de peuplement de la planète par notre espèce, cette dernière vague qui commence il y a à peu près 50 000 ans au Proche-Orient et qui va se répandre dans les moyennes latitudes, qui va aller jusqu'en Australie et plus tard jusque dans les Amériques, qui est responsable de la production de ces grottes. Et on s'imagine assez facilement que probablement il y a une partie ancienne de cette histoire qui nous manque, parce que volontiers, je serais tenté de penser qu'il y a une origine, peut-être même avant la sortie d'Afrique, de cet art, ou en tout cas peu de temps après, et qui s'est répandu sur toute la planète avec des traits communs, qu'il a été exporté un petit peu partout, et ça c'est assez fascinant.
Ça nous ramène
à cette idée que tous les hommes actuels ont une origine commune récente, et que il s'insère dans un arbre d'espèce beaucoup plus complexe, qui est un arbre enraciné il y a des millions d'années avec une grande variété, mais que on connaît aujourd'hui une situation exceptionnelle avec une seule espèce humaine très homogène qui peuple toute la planète.
Il nous reste une toute petite poignée de secondes juste pour nous rappeler, Sophie Bécherel, cette fameuse reproduction de la grotte Kosker, à quel moment les petits wagonnets dont vous parliez quasiment au milieu de l'eau, à quel moment tout ça sera prêt, ouvert, visitable?
A priori juin 2022. Eh bien, écoutez, le chantier ne fait que commencer au sens où les panneaux arrivent petit à petit. La structure est en train d'être installée dans ce bâtiment tout près du Mucem.
Écoutez,
très joli parce qu'il est lui-même entouré d'eau. Donc
absolument,
on est vraiment, c'était un lieu idéal pour la grotte Kosker.
Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous vraiment de nous avoir emmenés dans ces méandres de la grotte Kosker. Je voudrais vraiment remercier mille fois le musée Regard de Provence pour avoir accueilli tout le monde. Et Thomas Robin aussi, que je salue pour la liaison parfaite pour ce téléphone sonne. Je salue aussi et j'embrasse Ludovic Asselot et Arnaud Caillé à la technique toute cette semaine. Tristan Gratalon à la réalisation. La rédactrice en chef s'appelle Marie-Claude Pinson et les programmatrices Nathalie Poitvin et Amélie Stadelman. Merci à tous et portez-vous bien.